Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto proposé par Kikinkout et Toupal de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au programme du magazine aujourd'hui, c'est jour d'anniversaire, ça s'est passé les 9 et 11 septembre dernier. 10 000 puristes ont fait le déplacement à Mandello del Rayo en Italie pour fêter les 95 ans de Moto Guzzi. Parmi ces 10 000 passionnés de la marque de l'aigle aux ailes déployées, Christophe, Béatrice présents aujourd'hui et qui ont participé à ce pèlerinage. Bonjour Christophe, bonjour Béatrice, ou l'inverse si vous voulez, d'abord honneur aux femmes.
Bonjour Jean-Michel. Bon,
effectivement, vous étiez là-bas, est-ce que c'était, j'ai lu des articles, que c'était la fête, c'était fabuleux, on fêtait donc ces 95 ans de cette marque italienne.
Ah oui.
Christophe, c'était bien.
C'était très 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 bien.
Est-ce qu'il y avait vraiment, il y avait vraiment 10 000 personnes, 10 000
motards? Il y en avait peut-être même plus que ça.
Plus que ça, ah, encore.
C'est, vraiment, il y en avait beaucoup. Cette année, beaucoup plus que même il y a 5 ans.
Alors, il faut dire que tous les ans, c'est les portes ouvertes, hein, je crois.
C'est tous les 5 ans normalement. Non. C'est vraiment, c'est au moment des GMG. Cette année, ce n'en était pas une, mais c'était ouvert quand même. Et désormais, ça aura lieu tous les ans à la même époque.
Alors là, 95 ans, dans 5 ans, bah, forcément, ce sera les 100 ans. Alors là, ça va être la super fiesta. Là,
oui. Tout à fait. Mandello. Ah, il faut y aller 15 jours là-bas.
Il faut 15 jours. Oui. Vous êtes parti une semaine. Vous, hein.
Oui, une semaine.
Oui, parce qu'il faut dire aussi que la région est très, très jolie et il y a de super balades à faire en moto.
Bah, ça se passe sur le lac de Com. Alors, pour celui qui ne sait pas ce que c'est que le lac de Com, ça fait partie des grands lacs qui sont au sud de la Suisse et au nord de l'Italie. Donc, lac majeur, lac de Garde, lac de Com. C'est quand même les empereurs romains allaient là-bas en vacances, par exemple.
Ah bon, ah,
oui,
d'accord.
Oui. Virgile allait là-bas dans le temps.
Virgile. Oui.
Et à l'heure actuelle, il y a une multitude de stars qui ont des appartements, des villas là-bas. C'est vraiment
extraordinaire. C'est fantastique. La région, elle est très, très, très jolie.
On a même la copine qui a acheté son pain en même temps que George Clooney.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, quand même. Oui.
Elle a proposé un café.
Non. Non, mais d'une simplicité, ah oui. Franchement.
Non, c'est une blague ou quoi
Non.
C'est vrai.
Ah, je te jure.
D'accord. Donc, je...
Bah, le voilà, lac de Com, c'est le Saint-Tropez de chez nous.
Ah oui, c'est vrai. Ça, apparemment, il y a beaucoup de belles voitures aussi là-bas. Hein. Bah, c'est à côté de la Suisse aussi, à côté. Hein. Donc, pas très loin.
Et oui, puis c'est la partie riche de l'Italie aussi.
La partie très riche de l'Italie. Oui, c'est l'inverse de la.
C'est pas la Calabre.
Non, c'est pas la Calabre. Non, effectivement. Voilà. Pour en parler aussi, un deuxième alors passionné de Moto Guzzi, c'est Nico. Bonjour Nico, Nicolas.
Bonjour Amiche.
Nicolas Poiret, connu dans le monde dans le monde guzziste, hein, forcément.
Absolument, monsieur. Hein,
parce que attends, j'ai pas dit, tu possèdes combien de motos de Guzzi déjà? T'as un
V7 actuellement, il y en a 3.
T'en as 3. Ouais. Donc un bizza là que tu as retravaillé, t'as tout démonté, et puis t'as simplifié les choses.
Oui, j'ai fait une moto à ma mode, quoi.
Voilà, une photo qui te plaît bien à toi. Là, ta moto.
Voilà.
Voilà, très bien. On va passer à notre deuxième invité, c'est Maurice Debrief, dit Momo le Cruel, intoxiqué au sel de Bonneville, USA. Bonjour Maurice.
L'Amiche, bonjour. Alors, c'est toujours un plaisir de revenir.
T'as remis ça cette année. Donc c'est la Speed Week à Bonneville, hein, dans l'Utah, hein, ouais, l'état d'Utah, hein, aux USA.
Ça se passe tous les ans théoriquement.
C'est une course de vitesse, hein, pure.
Ah, c'est de la vitesse pure, oui. C'est pas de l'accélération. Beaucoup de gens font l'amalgame avec le dragster qui est de l'accélération. Là, c'est on a plus de 3 km pour se lancer et encore 1 mile, donc 1,6 km. Qui est chronométré, donc on a vraiment de la place.
On en parlera parce que cette course, cette manifestation a été annulée depuis 2 ans, là, parce
ça
que
fait
à cause
de
problèmes de pluie,
météo,
et puis d'une mine qui pompe le sel, enfin parce que c'est du sel.
Il pompe pas que ça.
Voilà, mais il y a 3 ans, il faut rappeler que tu as battu, tu as participé et tu as fait 232 km/h, je
c'est
crois,
ça, ouais.
Hein, avec un 1000 Harley,
enfin bidouillé dans tous les sens, hein, parce que c'est au départ un 1200 Sportster, mais qui est dégonflé en moins de 1000 pour tomber dans une catégorie. Mais malheureusement, en 2008, haine contre les Guzzis, d'ailleurs, c'est une Guzzi qui m'a soufflé le record.
Non, c'est pas vrai, Maurice.
Qui était à 215.
Guzzi, ça tombe bien, tu vois,
parce que 215, bah ouais, on rebondit là-dessus justement. Le record étant à 215 km/h, je me suis dit à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'est bon, avec une Harley, on va pourrir les Italiens. Et quelqu'un en Guzzi, avec une Le Mans hyper tapée dans tous les sens, a porté le record d'un coup à 243 km/h. Donc ça me fait
une marge.
12 km/h à aller chercher. Ouais. Mais on va y arriver. Si c'est pas 2016, comme ça n'a pas été le cas, ce sera 2017. Et puis voilà.
Est-ce que vous avez vu ce que veut faire Guy Martin, la Triomphe, avec le Streamlamer, qui veut battre le record à 600 avec un moteur atmosphérique, hein, parce qu'il y a beaucoup de catégories.
C'est en turbo.
En turbo.
C'est un double voilà. Double 3 cylindres, le Rocket.
C'est un
double
Rocket 3 turbo-compressé. Ouais.
Plus de 1000 chevaux.
Plus de 1000 chevaux, oui. Mmh. Et donc il a fait 400 quelque chose, il lui manque 150 km/h pour battre le record.
Ouais. Pas facile,
fait,
Maurice.
Non, non, c'est les derniers à aller chercher, mais là 150 d'un coup, ça fait quand même beaucoup.
Ça va faire beaucoup. Ouais, ouais, les 12, ouais, ça va, mais 150.
À voir, hein, s'il teste, c'est la première fois qu'il roulait. Donc, ouais.
Mais ça doit être impressionnant, 600 km/h par exemple, s'il y arrive, hein, ça va faire.
J'imagine. Bah, le record là-bas absolu en vitesse pure en voiture, là, il y a plus de 700 km/h.
Ah, mais sur deux,
sur quatre roues. Ouais. Mais vraiment, c'est un avion de chasse mis sur quatre roues. Et
on rappelle.
Avec un simple moteur, uniquement un moteur turbo. Ouais, pas un très gros moteur en plus.
Et la vitesse absolue, c'est Mach
1
avec un turbo-réacteur. Hein.
C'est carrément un avion, avions, deux moteurs Rolls-Royce.
Mais sur
deux,
hein. C'est pas un avion. Hein.
Non. C'est comme un avion sans ailes, comme disait Charlie Lee Couture.
Voilà, un avion sans ailes.
Mais c'était battu en 97, ça part des Anglais. Alors les Américains font d'ailleurs la gueule, parce que ça fait très longtemps, que depuis 83, que le record appartient aux Anglais. Avec le thrust à l'époque, qui avait passé les 1000 et quelques. Là, le mur du son a été passé encore une fois par des Anglais. Et depuis 1983, le record est au absolu de vitesse sur Terre et détenu par les Anglais. Donc les Américains bougent. Il y a plusieurs teams qui bougent, qui essayent de faire des voitures, on va dire, mais toujours avec des turboréacteurs. Aussi bien aux États-Unis qu'en Australie aussi. Il y a un team qui prépare quelque chose.
Bah écoute, tu nous raconteras ça un peu dans l'émission après. Hein. Il y a plein de choses à dire sur cette manifestation là-bas, dans l'Utah, aux USA. Voilà, notre invité, mais improvisé, c'est notre ami Yanis.
Bonjour, toujours improvisé.
Qui est venu avec plein de bouquins, mais je pense que là, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps, Yanis. Peut-être la semaine prochaine,
la semaine prochaine, je vais faire correspondant.
Tu vas nous faire une petite correspondance. Et puis notre invité aussi, côté féminin, c'est Christine. Bonjour Christine.
Bonjour.
Et à la technique, c'est notre ami Lolo.
Eh bien bonjour.
When I am good for nothing, good for nothing, right? Good for nothing, right? And such me fine. And well, it don't mean nothing, don't mean nothing, see. And well, it don't mean nothing, don't mean nothing, see.
amis puristes de cette marque italienne, Moto Guzzi, ont fait le déplacement les 9 et 11 septembre dernier. Et deux sont avec nous, Béatrice et Christophe. On va pénétrer dans les locaux de cette usine parce qu'on peut la visiter. On peut même visiter une ligne de montage, hein, d'assemblage des motos. On a l'impression que quand on rentre dans cette usine, c'est une usine musée. On n'a pas l'impression qu'elle fonctionne, qu'elle produit.
Ce qu'il y a, c'est qu'on fait rentrer les gens pour la visite par l'ancienne entrée. Désormais, il y en a une autre derrière, juste derrière par l'église, enfin par le cimetière. Donc tu rentres par la vieille entrée, je ne sais pas si elle sert encore, je pense que oui quand même. Et donc tu arrives directement sur les anciens bâtiments.
Ça fait un peu vieux. On n'a pas l'impression qu'on peut produire pratiquement toute une gamme de machines dans cette usine, en fait.
Lac de Com, c'est un peu ça aussi. On a une espèce de romantisme suranné quand on se balade dans les villages autour, dans ces vieilles villas-là autour, tout ça. On sent qu'il y a eu un faste passé, mais c'est un petit peu décrépit. Et ça fait son charme. L'usine de Guzzi, c'est un peu ça. Elle est un petit peu décrépit, mais on voit que ça a été la plus grande usine de moto d'Italie. Donc elle est coincée entre la montagne et le lac, il n'y a pas beaucoup de place. Elle s'est développée un petit peu de façon compliquée. Elle bouffe la moitié du bled. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'est décrépit. Mais...
Alors c'est vrai, c'est décrépit parce que par cette entrée là où tu t'expliques, Christophe, il y a Moto Guzzi écrit en grand sur fond rouge.
Oui.
Alors un rouge un petit peu passé quand même avec le soleil tout ça. Ouais.
Et il y a quelques années, il manquait une lettre. Alors c'est pour dire.
Ah, il manquait.
Est-ce que c'est que maintenant il y a beaucoup moins de monde dans l'usine puisqu'il n'y a plus de fabrication non plus, c'est plus que de l'assemblage. C'est pour ça que le bâtiment.
Alors voilà, les fonderies, tout ce qui est fonderie, ça vient d'où alors?
Par rapport à il y a 5 ans, il y a déjà 2 bâtiments au moins.
Bah, il y a beaucoup de sous-traitance maintenant. Et avant, il faisait tout, hein. Il faisait les fourches et tout ça au début. Hein.
Il faisait les fourches dans cette usine. Il y avait moins de modèles quand même.
Sous licence Sariani, mais il faisait les fourches eux-mêmes. Il faisait tout. Le cadre, il se faisait le cadre et tout. Il faisait tout. Il y avait des poubelles de l'usine. Les gens, ils allaient chercher les pièces parce que c'était des cadres qui passaient pas les normes, mais bon, ça pouvait dépanner pour faire un side.
Je vais bien comprendre, et bien sûr. Et oui, alors on a du mal à imaginer parce que quand on arrive à cette usine, il faut suivre le lac de Com. Là, c'est une petite, c'est pas très large quand même. Hein. On imagine les dizaines de milliers de camions qui doivent approvisionner l'usine.
Il y a un train quand même qui passe. Hein, ça arrive juste
devant l'usine. Il n'y a pas longtemps qu'il y a le train qui est la ligne de chemin de fer.
Ah, si, là, ça a toujours existé.
Tout ne peut pas se faire par chemin de fer. Donc,
c'est sûr que c'est compliqué. Derrière les montagnes, monte à 2400 mètres juste derrière.
Comme Nicolas nous dit, cette usine, elle est juste adossée à la montagne, juste derrière. C'est incroyable. Donc on peut visiter. Donc il y a une chaîne d'assemblage.
Oui. Une de moteur
et une de moteur aussi.
Une de moteur et une de.
Ça c'est bien. C'est instructif. On peut voir un peu comment fonctionne une usine pour assembler des motos.
On voit que ça. À vrai dire, il y a certainement beaucoup plus que. Qu'on ne vous voit pas, qu'on ne nous font pas visiter non plus.
Hein. Oui, parce qu'il y a combien de modèles maintenant chez Guzzi? 5-6 modèles, non?
Oui, c'est pas une gamme énorme, mais ils sont tous développés sur quasiment. Il y a 3 moteurs en fait. Hein.
Voilà, c'est petit bloc ou gros bloc.
Oui.
T'as pas 50 choses maintenant depuis 76.
Apparemment, pour 2017, ils ont sorti d'autres nouveaux modèles aussi.
Mais toujours sur la même base.
C'est toujours la même base.
On sait pas très bien, théoriquement, un jour ou l'autre, ils devront certainement passer à du liquide ou des choses comme ça, parce qu'à mon avis, ils passeront plus.
Ils ont du mal avec Euro 4. Hein.
Mais pour le reste, c'est le petit bloc qui date de quoi, 76, hein, on va dire. Et puis le gros qui date du début des années 60. Maintenant, il n'y a plus que ça.
Donc, on pénètre dans cette usine-là. Donc, des bâtiments en briques. Hein, avec une grande allée.
Couleur chatoyante.
Notre ami Laurent qui nous fait des. Alors, donc on arrive dans cette allée là, donc et on peut apercevoir. Donc sur la gauche, on a le musée.
Le musée. Très intéressant le musée.
Sur 3 étages.
Ah oui, c'est très intéressant.
De la production des origines, hein, 1921 de Moto Guzzi.
Jusqu'à aujourd'hui, avec les championnes du monde des années 50, la V8. Quand même à l'époque, ils pouvaient faire 68 chevaux, il me semble. 68 chevaux, 240 ou 250 pour la fin des années 50. C'était une bombe, hein. C'était la révolution. Ils auraient été juste le champion du monde à cette année-là. Certainement qu'ils auraient été champion du monde l'année qui suivait.
Et le musée, on peut y aller tous les jours l'après-midi.
Il ouvre de 15h à 16h, il me semble.
Oui, voilà.
Sauf le mois d'août, c'est fermé.
L'usine est fermée.
Ouvert toute l'année, le soir on peut aller visiter l'usine, sauf le mois d'août c'est fermé.
On voit aussi la Guzzi de Charles Krashko qui a battu un record d'endurance, je crois, ou qui a explosé, je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, c'est la Guzzi avec laquelle il a fait Le Mans. C'est pour ça qu'elle s'appelle Le Mans. Oui.
Le Mans, il est tiré de là, alors.
Ouais. Mais c'était encore l'ancien cadre et tout ça. C'est lui qui a coursifié.
Donc elle est exposée, cette moto, avec son nom, et dans le musée. Et on s'aperçoit aussi que Moto Guzzi n'a pas fait que des motos, hein. Il a fait des avions. Il a fait aussi
des motoculteurs.
Les motoculteurs, la bourrée la terre, petites voitures aussi.
Bon, ça va la niche, c'est bon.
Non, mais c'était un temps où c'était très difficile pour la marque. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Parce qu'après, on verra un petit peu des origines à l'historique, où c'est passé entre beaucoup de mains, de sociétés qui ont revendu après le nom. Voilà. Et donc, après, on peut donc faire. Oui, alors, la soufflerie. Alors, on parlait de ces fameuses souffleries. Alors, ça c'est un truc. Je veux dire que j'ai visité aussi. Hein. Donc, la soufflerie, elle est aussi adossée à cette montagne. Hein. Et quand on voit de loin, on voit du béton, hein, une espèce de bâtiment rond, bétonné. Et il y a des arbres qui poussent, de lierre qui poussent dessus. Quoi. Et quand on s'approche, en fait, aux extrémités, et là, on regarde et on voit quoi ? On voit forcément une espèce d'hélice, mais énorme hélice. Mais alors, hein, je ne sais pas que ça peut faire de diamètre.
8 mètres de diamètre.
6, 8, c'est énorme. Et donc, c'est ces fameuses souffleries qui a servi pour mettre au point certaines machines de carénage.
Bah, les premières machines de course de chez Guzzi, c'était les seules qui avaient du temps ce qu'ils appelaient les carénages poubelles. Donc, c'était des carénages absolument affreux et qui englobaient même la route devant. Donc c'est des carénages qui étaient très très efficaces, seulement comme les autres ne passaient pas dans soufflerie, régulièrement il y avait des accidents, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté un moment, parce que un coup de vent latéral et puis ta moto partait de l'autre côté. Et donc Guzzi était les seuls à posséder une soufflerie, et ils essayaient leur carénage dedans. Donc pendant les années 50, tous les championnats du monde des années 50, elle a servi à ça, et ensuite elle a servi aussi pour tout ce qui est carénage, y compris actuellement.
Voilà. Et petite anecdote, c'est que j'ai vu qu'on était obligé d'utiliser la soufflerie que la nuit. Parce que si ça pompait tellement de jus que la ville de Mondello, il y avait plus de courant dans Mondello. Alors il fallait utiliser la soufflerie la nuit, parce que sinon il y a certaines personnes qui auraient un peu pas très contents. Voilà. Bon, on passe à un morceau de musique et après on revient un petit peu les origines et puis aussi les géniteurs de cette marque. Ils étaient trois, Nico.
Ils étaient trois amis. C'est une belle histoire.
Belle histoire, ouais. dont un qui est décédé avant de commencer vraiment la production de machines.
Voilà.
Allez, musique, on se retrouve après.
C'était les 9 et 11 septembre, les 95 ans de Moto Guzzi avec vraiment des passionnés de la marque. Tiens, Christophe, t'as combien de Guzzi 3-4 aussi.
4 hein. Qui roulent, plus plusieurs qu'on peut faire aller.
Que tu peux. Tu peux remonter.
Bah non, c'est de la pièce détachée.
Et forcément, Béatrice, qui est à côté, bah, s'est dit tiens, peut-être que je pourrais en prendre une aussi, rouler sur une Guzzi peut-être.
Bah, ça a commencé quand nous on s'est installé, j'avais une Honda, un 900 Bol d'Or, et on l'a revendue pour acheter la télé, les gamelles et les bidons.
Voilà.
Et puis on a récupéré la première Guzzi, c'était un 650 Lario.
Voilà, ça
a commencé. Et ça a commencé comme ça.
Voilà, très bien.
Et
voilà.
Maintenant, on est sur route Guzzi et sur piste Guzzi.
Oui, Guzzi, voilà. Bon, Nico, les géniteurs, un peu l'histoire, ça commence en 1921, je crois.
Oui, alors en fait, le vrai anniversaire, c'était le 15 mars. C'était pas au mois de septembre.
Ah, d'accord.
Ah, ouais, c'était le 15 mars.
D'accord.
Et le 15 mars, oui, donc 95 ans, 1921. Et 1921, bah, on est au lendemain de la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Et Guzzi est né d'une histoire de cette rencontre pendant cette guerre, de trois passionnés. Alors ils se sont rencontrés sur l'île de Sant'Andrea, c'est près de Venise. Et là il y avait une escadrille d'hydravions. Et alors attention, hein, pendant la guerre 14-18, l'aviation c'est l'époque des pionniers. Hein, Blériot a traversé la Manche en 1909. Donc là on était 5 ans après. Les avions c'était des Maquis, c'était une fabrication sous licence d'avions français, parce que les Français à l'époque étaient vraiment en pointe en matière d'aviation. Et le moteur c'était un Rhône, ça va devenir d'ailleurs Nomeron,
ouais.
Qui va faire des motos après la guerre également, hein, mais enfin, c'est une autre histoire. Et donc revenons à nos trois amis là. Ces avions ils étaient en toile tendue, en croison de bois et en hauban de piano, de cordes à piano.
Hein,
ouais, voilà, c'était frêle. Et le premier d'entre eux, c'est Giovanni Ravelli. Alors à cette époque-là, en Italie, plutôt qu'utiliser le nom de famille ou le prénom, tout le monde avait un surnom. Un petit peu comme dans les motoclubs.
Ouais, hein. Parmi les moteurs.
Ouais. Ouais, voilà. Et donc Giovanni Ravelli, son surnom, tout le monde l'appelait Il Diavolo. Ah, ça veut dire le diable. Ouais. Et ça faisait référence à son imprudence. C'était un vrai casse-cou. Il était coureur cycliste. Il était champion d'Italie de moto. Il était pilote d'avion. Il avait appris en France, à Reims, puisque tout ce qui se faisait aviation, c'était en France. Hein. Et pendant la guerre, il a participé donc à de nombreuses missions. Et il avait eu 3 médailles d'argent pour bravoure. C'était un gars, un fou, vraiment très casse-cou. Et à ses côtés, il y avait un autre pilote d'avion qui était très décoré aussi, c'était Giorgio Parodi. Et lui, il venait d'une riche famille d'armateurs de Gênes. Mais c'était quelqu'un de très humble, pétri de qualités chrétiennes et humaines. C'était quelqu'un qui avait une belle idée de la vie. Et il avait un esprit de compétition très important. Et il a participé à plusieurs courses automobiles. Et son nom à lui, c'était La Touga. Et le troisième, c'est Carlo Guzzi. Alors lui, il s'appelait Taj, son surnom. Et il avait dû écourter ses études parce que son père était décédé. Et donc, sa mère avait dû vendre la maison de Milan pour aller dans leur petite maison de vacances sur le lac de Côme, à Mandello. Et puis, ben lui, du coup, il avait dû trouver du boulot. Et il avait trouvé un boulot chez un garagiste. Et il était mécano. Et c'était un garagiste qui faisait des voitures qui s'appelaient Isotta Fraschini. C'était des voitures, à l'époque, des voitures très luxueuses et des voitures de course. Donc, il était à bonne école avec des moteurs très développés, des moteurs bras à cam en tête et tout ça. Donc, il avait une bonne idée de la mécanique. Et puis, pendant la guerre, Carlo Guzzi, lui, il n'était pas pilote, mais mécanicien. Et à l'époque, quand on pilotait ces espèces de pièges volants, là, il fallait avoir une bonne confiance en son mécanicien. Et le mécanicien de Carlo Guzzi, c'était le mécanicien, parce que c'était pas simple, hein, les moteurs d'avion à l'époque, c'était donc des moteurs en étoile. Et il fallait que la distribution elle soit parfaitement réglée et l'allumage aussi, autrement, c'était antagoniste si le moteur s'arrêtait. Les cylindres du bas, ils se remplissaient d'huile. D'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs quand ça démarre, ça crache nuage de fumée noire.
Oui.
Parce que c'était des cylindres où en fait tout tournait. Hein. C'était rotatif. L'ensemble
les
des cylindres
aussi.
Tournaient en même temps. Ouais. Et c'est ça qui faisait tourner par rapport à l'axe. Et ne serait-ce que par exemple l'alimentation en essence, il n'y avait pas les matériaux qu'il y avait maintenant, c'était du tissu, une étincelle.
Ah,
et
on puis, se doute bien que ça ne devait pas être. Voilà.
Et Carlo Guzzi, c'était un mécanicien de Giovanni Ravelli et Giorgio Parodi, et c'était un très très bon mécanicien. Et à l'armée, il l'avait nommé ingénieur. Et donc c'était devenu trois copains. Ils avaient leur sort lié un peu. Hein. S'il y en a un qui faisait une connerie, l'autre il rentrait pas. Hein. Donc le soir pour décompresser, ils discutent et ils ont tous les trois une passion pour la moto. C'est des aviateurs, l'aviation et la moto c'est assez lié. Hein. On aime bien les moteurs, on aime bien les sensations, on aime bien être en contact avec l'air. Donc ils parlent de tout ça et puis ils sont impressionnés, ses amis, là, par sa maturité technique. Et ils font un pacte. Ils disent, si la guerre est finie, dès que la guerre est finie, si on s'en sort, on va se lancer dans ce projet-là. Carlo Guzzi, toi, tu construiras les motos. Giorgio Parodi, il dit, toi, tu vas trouver le financement près de ta famille. Et puis, Giovanni Ravelli, lui, il se faisait fort de faire briller la moto en compétition.
Voilà.
Voilà. Et donc, c'est comme ça...
Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose.
Exactement. Ouais. C'est comme ça que la mayonnaise a démarré. Et de fait, dès la fin de la guerre... Guzzi retourne à Mondello pour assembler son prototype dans l'atelier de son ami Giorgio Lipanoni. C'est Ferret, son surnom. Et il a d'ailleurs une plaque à Mondello sur la maison. Elle existe toujours, cette maison, où il a construit sa première moto, donc dans l'atelier. Ouais. Et en janvier 1919, Parodi obtient une première réponse positive de son père pour aider au financement du prototype, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Et Ravelli, lui, en attendant que la moto soit prête, il s'est démobilisé. Il s'est dit, tiens, il y a un essai d'un nouvel avion, je vais aller essayer un nouvel avion. Et puis, juste après le décollage, le moteur s'est arrêté, il n'y avait pas assez de vitesse, l'avion décroche, il s'est écrasé. Et il a survécu quelques temps, mais il est décédé des suites de ses blessures. Donc c'est pour ça que l'emblème de Moto Guzzi, c'est un aigle
aux ailes de poilier.
Voilà. C'était l'emblème de leur escadrille.
Ils ont pris cet emblème en l'honneur de
Ravelli,
de Ravelli
et en souvenir de leur escadrille. Ouais. Et donc voilà, donc la première moto, elle est baptisée GP pour Guzzi Parodi. Mais Parodi, très, très humble, il dit ça va faire Giorgio Parodi, GP, c'est toi qui l'as conçu, appelle-la Moto Guzzi. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle s'appelait Moto Guzzi. Et donc le 15 mars 1921, la société anonyme Moto Guzzi est créée à Mondello dell'Ario.
You are the queen. was won, wilder than the West was won, wilder than the West was won. Hey Delilah, you really got me living again. You got me hanging, I'll never be to your heart. Hey Delilah, life is worth living again. Lead me where you will, you're the queen of my heart. You are the queen of my crazy mixed up world. You're my Memphis Minute girl. You are the queen.
Voilà, aujourd'hui c'est Radio Moto Guzzi, aujourd'hui sur les ondes de campus dans le magazine de la moto. Donc 1921, la création de Moto Guzzi, hein, et puis ensuite beaucoup de modèles avec au départ un moteur, un cylindre horizontal.
Voilà, l'idée de Guzzi c'était de créer une moto simple, très fiable, confortable, maniable, avec un centre de gravité plus bas possible. Alors il a construit un mono 500, 4 temps, horizontale, avec des côtes super carrées, donc les âges plus gros super que la course, 88-82, pour pouvoir loger de grosses soupapes. Et un moteur très moderne de conception, c'est un bloc moteur boîte, c'est-à-dire qu'à l'époque, les boîtes de vitesse étaient séparées. Et lui, il a fait un bloc moteur. Il a fait un cadre rigide, une selle surbaissée, et il a aussi inventé au passage la béquille centrale. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait des béquilles sur les roues.
Oui, sur les roues. Oui.
Et lui, il a mis les béquilles centrales. Et du coup, tout le monde a repris son idée.
Comme
après.
En compétition.
Voilà. Elles ont un petit surnom un petit peu partout. Parce que le volant moteur est à l'extérieur. Et on les appelle les coupes jambon.
Ah oui, les coupes jambon, c'est vrai. C'est ça, ce grand volant là.
Exactement, à l'extérieur qui tourne.
Généralement chromé, hein.
C'est ça. Rouge au milieu et chromé.
Et ça, c'est le
volant moteur.
Le volant moteur. Hein.
Ouais, voilà. Et donc,
la
en fait,
masse du moteur.
Voilà.
Pour le
tourisme, on pouvait le changer pour mettre plus ou moins important. Donc, on avait une moto qui montait sur l'élan.
T'as pas intérêt à avoir des lacets trop grands ou qui se barrent dans le volant. Hein.
Ah ouais, mais
ou alors des pantalons pas de def. C'est mal barré.
Ah, c'était pas la mode à l'époque.
C'était pas encore la mode. On avait des bottes de cheval pour faire
des bottes de cheval, ouais. D'accord.
Et donc, il se fait aider pour pouvoir produire en série, parce que faire un prototype, c'est bien, mais après, il faut produire. Ouais. Il se fait aider par son frère, Giuseppe Guzzi. Son petit surnom, c'est Naco, il est connu comme ça. Et lui, comme son frère avait bossé comme mécano pour alimenter la famille, lui, il avait pu faire ses études quand même. Et il était ingénieur polytechnique, c'était un gars qui était balèze, mais un peu taciturne. Un gars qui était un peu enfermé, solitaire. Mais au niveau technique, il a pu l'aider à mettre au point la conception de l'atelier pour pouvoir produire en série. Et donc en fait, ça marche, parce que dès 1921, il construit une trentaine de motos et elle gagne les courses dès le départ. Et donc Guzzi, c'était la conception technique. Et Parodi, vu que Ravelli était décédé, il s'est occupé de la compétition, parce que lui, il aimait bien la compétition. Et c'est ce qui a permis derrière le développement rapide des ventes, parce que ça a fait connaître Guzzi. Et Parodi était connu pour être un exemple de fair play. C'était un sacré bonhomme. Lorsqu'une autre moto gagnait, il demandait à tous ses mécaniciens et les pilotes d'applaudir le vainqueur.
Ça change maintenant.
Et il disait toujours, faites aux autres ce que vous avez envie qu'on vous fasse. Et du coup, ils ont gagné le Titi en 1935. Et en 1935, c'était la première fois qu'une moto qui ne soit pas anglaise gagne le Titi. Et bien les Anglais, comme ils savaient qu'ils étaient super fair play, ils lui ont fait une huée d'honneur alors qu'ils avaient les boules, parce que c'était une Guzzi qui gagnait pour la première fois, une moto non anglaise qui gagnait le TT. Mais son principe, il a été suivi. Donc c'était un sacré bonhomme. Et puis il y avait Nako, donc le frère aîné de Carlo Guzzi. Donc c'était donc un solitaire. Et son plaisir à lui, c'était de partir en vacances en voyageant avec sa Guzzi. Et il a fait une série impressionnante de raids. Et il y avait une plaque vissée sur le garde-boue de sa moto. Il a toujours conservé la même moto toute sa vie. La première Guzzi qu'il a eue, il est toujours resté avec. Il voulait voir jusqu'où elle irait. Il n'a jamais réussi à aller au bout. Il est mort avant. elle était donnée au fils de Carlo Guzzi, Ulysse Guzzi, qui a roulé avec toute sa vie. Et la moto, elle tourne encore. Et après, elle était donnée au motoclub de Mandello. Et il y a un mec qui a refait les voyages qu'avait fait Nako avec, et elle roule encore. Et du coup, maintenant, elle est dans le musée. Mais dans le musée, c'est la Norge qui est dans le musée.
Ah, c'est cette fausse Norge. Hein.
Ouais, c'est une fausse Norge.
C'est lui qui dit, c'est qui décide d'aller pour prouver que la fiabilité du moteur et de la moto, il décide de partir au Cap Nord.
Voilà.
Hein, donc on va l'appeler la Norge.
Voilà, c'est ça. C'est une fausse Norge. Et donc en fait, il y avait une c'est une fausse Norge parce que il l'a fait évoluer en Norge, mais c'était toujours sa première moto. Et en fait, pour bien illustrer quel genre de personnage était ce Nato, il part faire son raid d'été annuel et il crève son pneu 100 mètres plus loin dans le tunnel qui passe justement sous la voie de chemin de fer à côté de l'usine. Et les ouvriers de l'usine, ils l'aperçoivent et il arrive pour venir en aide. Mais il leur dit non, regardez là, je suis parti. Je suis en vacances là.
Rentrez dans l'usine.
Retournez, c'est à moi de le faire là.
Ah oui, ouais. Oui, il faut adorer.
Et en 1926, il est au fin fond des Carpates avec sa Guzzi. Il casse le cadre de sa moto. Et là, il joue à MacGyver. En fait, il était un petit peu comme la Miche. Il fait une réparation de fortune en puisant dans le stock de ses chambres à air.
Oh, mais ça marche.
Et il répare. Et il rentre comme ça à Mandello. Mmh. Et il dit à Carlo, en rentrant, « Bah tu sais, elle marche vachement mieux comme ça. Ouais. Elle tient mieux la route comme ça. »
Ah, tu vois.
Alors, ils se mettent tous les deux sur la planche à dessin et ils vont inventer le bras oscillant. Alors, le bras oscillant, pour faire un bras oscillant, il faut des suspensions. Les suspensions arrière n'existaient pas. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le bras oscillant appui sur un boîtier dans lequel il y avait des ressorts. Ouais. Donc ça, c'est la partie suspension. Ouais. Et puis, pour freiner les oscillations du ressort, ils mettent des compas sur le côté qu'on sert pour freiner le truc. Alors, et donc, ils ont inventé...
Ça n'a pas plu à tout le monde quand même. Parce qu'il y avait apparemment un petit flottement dans le comportement routier.
Alors ça, c'est ce qu'on veut bien faire croire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, les motos de compétition étaient rigides. Toutes. Parce qu'on ne savait pas faire des suspensions. Donc, quand ils ont vu arriver cette moto-là, ils ont dit, non, c'est pas possible. Ça... Elle n'a pas eu de succès du tout. Il a fallu attendre justement qu'elle gagne le Titi. Et elle a gagné le Titi avec cette suspension-là pour qu'ils disent, c'est que ça marche mieux. Donc, mais il a fallu ça. Il a fallu attendre 1935 pour que le monde de la moto accepte qu'une suspension avec une suspension arrière totalement suspendue fonctionne mieux qu'une
rigide. Alors on peut dire que c'est Moto Guzzi qui était à l'origine de la suspension
du bras oscillant en tous les cas.
Du bras oscillant,
tout à fait. Ouais. Et donc cette moto c'est devenue la Norge. Et donc elle avait déjà quelques petits accompagnements, un boîtier pour mettre ses cartes, des choses comme ça. Elle était un petit peu moto de tourisme.
Une Goldwyn.
Hein, une GT, voilà.
Une Goldwyn.
Voilà, exactement. cette moto, elle existe encore, donc elle est dans l'usine. Et en compétition, Guzzi va essayer plein d'architectures moteurs. C'est vrai qu'ils vont rester fidèles en tourisme à ce monocylindre à plat. Mais en compétition, ils vont essayer plein de choses, quasiment tout. Ils vont faire un 3 cylindres en ligne, un refroidissement liquide. Ils vont faire un bicylindre en V, mais dans le mauvais sens, à Ducati, là, mais plus écarté, à 120 degrés. Ils vont faire un 4 cylindres en long à cardan. Ils vont faire la V8. La V8, c'est l'aboutissement du travail de Carcano. C'est un moteur énorme, mais qu'ils ne vont jamais réussir vraiment à mettre au point. Et ils vont abandonner la compétition en 1957, ça coûte trop cher. Hein. Et ils auront quand même engrangé 14 titres mondiaux. et 3329 victoires dans des compétitions officielles.
Ah, incroyable, hein. Ouais. J'ai vu ça. J'avais pas ce chiffre-là, mais les sources, on peut avoir.
J'ai un bouquin ici, ouais. Et ça recense toutes leurs victoires.
Moi, j'ai 2800 victoires.
Il y a toutes les victoires.
Ils vont arrêter en même temps que Gilera. Et d'ailleurs, les ingénieurs de chez Gilera vont partir chez Mvagusa. C'est ce qui va donner toute la saga Mvagusa des années 60.
Ah, alors. Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de. Parce que cette marque a été revendue, rachetée, enfin le nom. Hein, et puis aussi, il y a l'histoire de Mondello, hein, de cette usine. Hein, c'était Abria qui voulait.
Il voulait trouver une usine plus moderne.
Plus moderne, et donc abandonner l'usine. Oui. Et les ouvriers ont fait grève.
Les ouvriers ont fait grève, la ville a fait grève.
La ville a fait grève, oui. Les magasins fermés, les rideaux. Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus rien. Pour éviter que l'usine déménage, en fait.
Il y avait tag partout, Guzzi à Mandello.
Incroyable ça. Voilà. Je sais pas, on reviendra, on va passer à un morceau de musique et après on va revenir sur l'histoire de la V7, là, bah, là c'est le même moteur en V, c'est une deuxième histoire ça. Hein.
Exactement. Voilà.
I'm not giving it up.
Alors voilà, moi je pense que c'est une moto Guzzi qui démarre pas. Ah là, ah non, mais ça,
ça démarre toujours. T'as déjà vu aux éléphants quand même, ouais. C'est laquelle qui démarre pas. C'est pas la Guzzi, c'est toujours
les
autres.
Je sais pas ce que c'est ça, c'est, pas des, c'est du 4 cylindres ça Laurent. Qu'est-ce que tu nous fais là, côté. C'est de l'émission quand même. Attends, c'est du bi, on n'en parle pas du bi. Parce qu'on va parler du bicylindre. Alors effectivement, on parlait origine, c'est toujours ce moteur un peu, moteur monocylindre horizontal.
Oui,
hein.
Oui voilà.
Et puis en 1963, alors, et là c'est une révolution quoi. Va naître la V7 à la suite d'un cours ministériel en vue d'équiper la police et l'armée.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans le début des années 60, c'est les années noires de la moto. Il n'y a plus que les cyclomoteurs qui
sont. Oui, parce qu'une Fiat, j'ai vu une Fiat 500, c'était coûté moins cher qu'une moto.
Oui, voilà.
Donc,
Et donc, il y avait les scooters qui tenaient le coup à peu près, et puis les cyclos. Et donc, Guzzi survit en faisant la Leggera 65, un deux temps, et puis le Galetto, un scooter à grande roue. Mais effectivement, c'est la police qui va sauver Guzzi de la faillite. Parce que l'État lance un appel d'offres pour renouveler son parc de motos et il voudrait une grosse cylindrée. Et en fait, la police actuellement, elle a, à cette époque-là, elle a encore le monocylindre. D'ailleurs, c'est les mêmes côtes moteurs que la toute première Guzzi. Donc on est en 1960, on a encore les mêmes côtes moteurs. Et donc, ben, dans les cartons, Guzzi cherche un peu ce qu'il peut proposer. Et puis, ils ont un moteur qu'ils ont conçu, c'est Carcano qui avait conçu ça, pour un projet de 3-3.
Ça s'appelle ça la mule. Ils appellent ça la mule.
La mule mécanique.
Ouais. La mule mécanique, ouais. Elle est dans le musée, hein.
Ouais.
Christophe.
Oui, c'est vrai. Ah.
Et donc, c'était un drôle de truc, et une roue à l'avant, et puis.
Oui. C'est un gros morceau de ferraille. Hein.
Un gros morceau de ferraille, ouais.
Oh la vache.
Voilà. Et donc il avait fait un moteur pour ce truc-là. Et donc ben il se dit ben on va essayer de l'adapter à la moto. Donc il commence à travailler dessus. Et puis il sort ce qui va devenir la V7. Alors c'est une moto massive, une grande routière. Hein, d'abord en 700 cm3. Aux USA ça va être un succès immédiat. Son aspect locomotive, son caractère, ils vont l'appeler The Buffalo. Et elle sera déclinée très vite en 750 puis en 850. Et ça va donner naissance
à la California, là.
Voilà, exactement. Ça va donner naissance à la Cali.
Il y avait des flics américains qui avaient cette moto, qui possédaient cette moto.
En Californie, c'est bon ça d'ailleurs qu'ils ont donné.
Ah, c'est ça, en Californie. Bah oui, je suis.
Ah, oui, voilà. Ouais, en fait,
Christine, t'aurais pu me le dire.
C'était.
Enfin, ce qui a fait aussi beaucoup de publicité pour cette moto, c'est quand Michael Wood l'a essayé et qu'il avait trouvé que c'était la meilleure moto du monde.
Alors, ça, c'était après. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est encore le vieux cadre. Et c'est vrai que c'est celle qu'a fait Carcano. Mais c'est vrai que le coup de génie, vraiment, c'est Lino Tonti, qui va remplacer Tartano, qui part à la retraite. Et lui, il va reprendre les préceptes de Carlo Guzzi en son temps. Abaissement de centre de gravité, amélioration des performances, priorité à tenue de route. Donc il remplace la dynamo qui était trop haute pour qu'il faisait un moteur avec un cadre trop haut par un alternateur en bout de vilebrequin. Il conçoit un cadre démontable pour pouvoir en serrer au plus près le moteur de la V7. Et il donne une moto qui va s'appeler aussi la V7, mais la V7 Sport, et qui est considérée comme la plus belle des années 70. Et Michael Wood, oui, après l'avoir essayé, il dira qu'elle a le meilleur cadre de série jamais conçu. Et la moto repart, Guzzi repart avec. Ils seront novateurs. Ils vont avoir un deuxième coup de fouet. Ils vont faire le freinage intégral, les carénages étudiants en soufflerie, puisqu'ils ont cette soufflerie, le convertisseur. Ils vont faire une moto automatique.
La Converse.
Ouais. Ouais. Converse, c'est les chaussures. C'est Converte.
C'est Converte. Moi, je pense que t'as la Converse. Non, mais c'était pour rire.
Et
on
puis
un petit peu de sourire voilà. dans l'émission.
Allez. Et puis débute la lignée des Le Mans, hein, avec le passage en fait de la 750 Sport à 850, puis à 1000. Et après, ils vont décliner ce bicylindre avec, c'est assez génial d'ailleurs la façon dont ils ont fait, de modèles sportifs ou tourisme, toujours très typés chacun, mais pourtant en partant du même cadre et du même moteur, en changeant simplement la taille des soupapes, le débattement des suspensions,
depuis quelques années là, on voit que le bloc moteur
on est toujours
on améliore
le bloc moteur actuel vient de ça,
ouais, hein.
Et donc à la mort de Parodi en 67, il y a un gros flambement une deuxième fois, et c'est une société de gestion, la CEIM, qui fait l'intérim. Et en 72, c'est repris par De Tomaso. Alors De Tomaso, c'était un Argentin qui a un petit peu racheté tout. Il avait racheté Maserati, il avait racheté Innocenti, il a racheté Benelli, et là, il rachète Guzzi. Et il avait un peu la folie des grandeurs, le mec. Et il s'était mis dans la tête de battre les Japonais sur leur terrain en proposant des copies de ce qu'ils faisaient. Et donc, il a commencé à sortir des 4 cylindres. Badger, soit Benelli, soit Guzzi, qui étaient en fait des copies de la 500 Honda, mais déclinées. Il a fait même une 250.
Oui, on les voit les 4 cylindres dans le musée. Hein. Ouais. Moi, on m'a dit qu'il y a des 4 cylindres Benelli. Alors, ouais. Non, c'était pas.
Non, les 4,
alors,
non,
c'est
non,
vraiment des productions Guzzi.
En fait, c'était Badger selon la cylindrée. Ouais, la 350, la 350 c'était une Guzzi. La 250, il a fait une 250 4 cylindres.
4 cylindres
de temps. Donc, celle-là, c'était
Benelli. Oui, il y a
2 temps
aussi.
Et Benelli, ils ont fait aussi le 6 cylindres, puisqu'ils ont été jusqu'à 6 cylindres. Mais alors il s'est rendu compte que ça marchait pas quand même, et il a quand même été lucide, et c'est lui qui a lancé les petits blocs. Donc il a dit ben, il faut produire autre
alors,
chose.
C'est quoi cette histoire de petits blocs et gros blocs chez Agusis? Parce que c'est un gros bloc, c'est un petit bloc.
Alors, le principe est toujours moteur en vie, hein. Oui, mais le principe est différent. Le gros bloc, c'est un bloc moteur où dedans tu viens mettre sur des paliers un vilebrequin, alors qu'un petit bloc, c'est le même principe qu'un moteur de bagnole. C'est-à-dire que tu as ton cylindre qui s'ouvre en deux, et puis ton vilebrequin en plein milieu. Et donc tu resserres, et ton vilebrequin est pris au milieu. Donc c'est pas du tout la même conception.
D'accord.
C'est un tunnel en fait pour le gros bloc, voilà. Et là c'est démontable complètement.
D'accord.
Donc c'est plus moderne. Hein,
Et après sur les gros blocs, sur les petits blocs, tu as le bras oscillant qui est pris sur le cul de boîte.
Qui est sur la boîte, effectivement.
Directement.
Alors. Tu gagnes. Un petit bloc, c'est vraiment un moteur. Enfin, quand tu démontes moteur, boîte, pont, ça fait vraiment un ensemble complet. Le cadre, tu viens le remettre par-dessus. Il pourrait même ne pas y avoir de cadre, que ce serait bon quand même. Contrairement à un gros bloc où ce serait pas possible.
D'accord.
Et donc, il va quand même concevoir ces petits blocs. Alors, le problème qu'il a eu avec ces petits blocs, c'est qu'il a voulu recycler. Par exemple, il a pris les bielles de la 250 Benelli.
Benelli, oui.
Et du coup, ça faisait des bielles très courtes. Et un des problèmes du petit bloc, c'était que, avec les cylindres initiales, avec ces bielles courtes, il y avait une partie du cylindre qui était dans le carter, qui ne refroidissait pas. Donc, c'était pas très. Du coup, il a dû faire un moteur qui ne soit pas trop puissant pour ne pas trop chauffer. Après, il a choisi un petit peu, parce que Morini faisait ça, de mettre des culasses plates. Hein, la technologie de culasses plates. Avec le piston qui est creusé, c'est la chambre de commission, il est dans le piston.
Dans le piston. Hormis pour les tas de soupapes.
Voilà. Et donc ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Et bon, maintenant, ce petit bloc, il existe toujours. C'est le nouveau modèle qui est sorti cette année, la V9.
C'est
dérivé de ça. Voilà. Mais ils ont mis des culasses hémisphériques.
Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait beaucoup de bêtises au début des années 80, quand ils ont sorti les 4 soupapes, qui étaient, elles, performantes. Je veux dire que un V65 Lario faisait 60 chevaux à l'époque. Pour 170 kilos, c'était quand même pas mal. Je veux dire que même à l'heure actuelle, moi je suis encore du circuit avec ça, encore il monte en 750, mais à 600-650 pantins, si j'accélère, il ne me rattrape pas. Donc c'était faisable. Le problème, c'est qu'ils sont mis à casser des soupapes en veux-tu en voilà. Et donc le moteur a vite arrêté parce qu'ils n'étaient pas capables de faire pour ça. Donc à vrai dire, la réalité, c'est qu'ils avaient surdimensionné les ressorts de soupapes à l'époque.
Ah, oui. Et donc on a terminé, Nicolas.
Oui, donc pour arriver à l'époque actuelle, en fait, après Guzzi a essayé d'utiliser à chaque fois, parce qu'ils ont tendance à faire un bond en avant et à s'endormir ensuite. Et donc l'influence suivante, ça a été parce qu'il y a eu les années 80, on disait que c'était un petit peu compliqué, et c'était le docteur John Whitner, c'est un Américain, l'usine somnolée, et dentiste américain, passionné de Guzzi, a réussi à gagner en 84 et en 85 le championnat US d'endurance. Et du coup, les dirigeants de l'usine se sont un petit peu réveillés en sursaut, et ils ont fait de John Whitner leur consultant, et puis c'est comme ça qu'ils ont repris l'idée de son cadre et tout ça, et qu'ils ont pu développer la Daytona, la Centauro, la V11, qui s'y sont dérivés en fait de cette moto. Donc ils ont toujours eu besoin ils sont un petit peu étonnés qu'il y a des gens qui dans leur coin réussissent à faire mieux marcher qu'eux, du coup ça les réveille, et ils courent après. c'est un petit peu le problème, ça manque de dynamisme.
Ouais. Alors j'ai vu aussi dans l'histoire, c'est que la production, hein, parce que toujours dans cette fameuse usine de Mondello, ce qui est vraiment incroyable, hein, parce que vraiment je me dis comment les camions, le train, ça doit sortir, rentrer, ressortir les machines toutes faites, prêtes pour redistribuer chez les concessionnaires en Europe.
Il n'y a pas une production énorme non plus.
Non, non mais enfin quand même, attends, tu vois le peu. Quand tu circules dans Mondello, déjà en moto, c'est un peu juste déjà. Alors, en fait, le 11 décembre 2006, la 10 000e Moto Guzzi 1200 sport est fabriqué, sort de l'usine de Mondello.
Et donc, et l'usine renoue avec ce nombre jamais atteint depuis 1998.
10 000 par an.
Ouais. Bah, oui, la 10 millième de Guzzi, oui.
Ouais. Oui, donc c'est pas des productions énormes. Hein.
Non, mais c'est pas énorme, mais vu l'endroit quand même, je vois pas comment on pourrait faire plus d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on a terminé avec...
Oui, rien que pour dire qu'en fait après ça a été aussi erratique, hein, donc ça a été racheté par Aprilia, et Aprilia a été racheté par Piaggio, du coup Guzzi a été racheté aussi par Piaggio, et puis on en est là actuellement. Alors le problème maintenant, c'est que c'est des moteurs à air, ils ont du mal à passer Euro 4 sans perdre leur caractère, et leur caractère c'est leur marque de fabrique. Donc il va falloir faire quelque chose. Et là, quand on voit au salon de... On espérait qu'il y avait un petit quelque chose, un soubresaut au salon de
Cologne.
De Cologne, ouais. Et puis rien eu. Donc on verra bien.
Il y a quatre modèles qui sont nouveaux, qui sont...
Ben disons que
pour l'Euro 4, là, pour 2017. Là, hein.
Ben en 2017, il n'y a plus que les V9 puis les 1400.
Ouais.
En milieu de gamme, il n'y a plus rien.
V9, oui.
Parce que le moteur ne passe pas Euro 4. Et qu'est-ce qu'ils vont sortir, on ne sait pas.
Voilà, très bien. Bon. On va passer à un morceau de disque. Et après, on part directement avec Maurice. On part directement, on change de continent. On prend l'avion et on part en Amérique, aux USA, dans l'état de l'Utah, hein, pour faire un run à 230 km/h. Maurice, qu'est-ce que t'en penses?
On va tester.
Ok, allez, on passe à un morceau de musique.
Voilà, après Moto Guzzi, on passe directement, on part là-bas aux USA, donc sur ce fameux lac Salé, hein, donc dans l'Utah, hein, un lac où on fait de la performance pure, de la vitesse pure, hein, Maurice.
Là, c'est que de la...
Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Tu m'avais dit que tu étais écœuré depuis deux ans, en fait. C'est impossible de pouvoir de rouler sur le lac, parce que à cause de la météo, et aussi à cause de la mine là, qui exploite ouais, un petit peu aussi.
Une compagnie minière, on va pour simplifier, qui exploite le sel... industriellement, mais à l'américaine, c'est-à-dire que même le lac a beau être énorme en superficie et en volume, on va dire.
Oui, c'est énorme hein, quand on regarde.
Ça fait je ne sais pas combien de dizaines d'années qu'ils pompent allègrement des millions de tonnes de sel pour exploiter apparemment la potasse qu'il y a dedans, hein, pour faire des engrais, je suppose. Et la croûte de sel n'est pas...
Il renvoie de l'eau aussi.
Ils renvoient ce dont ils ne se sont pas servis, donc du sel pur, mais bon, ils en renvoient beaucoup moins que ce qu'ils ont pompé. Donc la croûte de sel, les anciens se souviennent, il y avait même des fois jusqu'à 2 mètres d'épaisseur de croûte de sel, au moins 1 mètre de toute façon. Là, il y a quelques années, on est allé voir, il reste par endroits 2 cm, voire plus rien, on voit la bouillasse qui apparaît en dessous. Alors là, le problème qui se pose surtout, c'est que bon, on n'est pas maître des éléments, de la météo. Et auparavant, quand il y avait un gros orage, ce qui arrive forcément, hein, mais des orages à l'américaine, donc c'est toujours mieux que chez nous, hein, c'est forcément plus fort.
C'est quand même incroyable.
Les Américains sont toujours plus forts.
Il y avait toujours plus fort, même les orages sont plus forts qu'en Europe.
Ils sont plus balèzes que chez nous.
Ils sont plus gros, oui.
Ils sont plus gros, ouais.
Les orages, ils montent peut-être du McDo aussi.
Et ce qui se passait, c'est que j'expliquais à Christine tout à l'heure, avant, quand il y avait un mètre de sel, bon, comme on dit chez nous, une grosse drage, c'est absorbé tout de suite, un coup de vent, ça sèche. Là, avec 2 cm de sel, ça stagne au-dessus et il reste 10 cm d'eau pendant des jours et des jours. Il faut que ça s'évapore tout doucement. Et pendant ce temps-là, les pilotes se bouffent le bout des doigts.
Voilà, écoute, on va reparler de ça après, parce qu'on a au téléphone, on a quelqu'un que tu connais bien.
Mais oui, c'est Franck, un vieux copain de sel, on va dire.
On va pas laisser patienter deux heures au téléphone.
Il est en train de bouillir depuis tout à l'heure.
Il y a beaucoup de choses à nous dire.
Son forfait de téléphone.
Franck, bonjour.
Bonjour.
Ouais, ça va, tu nous entends bien?
Oui.
Voilà. On a rentré le sujet avec Maurice, hein, donc ouais. Ces histoires de météo, hein, et puis de d'usines, hein, qui tirent du sel.
Oui.
Sur le lac. Ouais. Et donc ça fait deux ans que l'édition n'a pas lieu. Hein.
Tout à fait. Ouais. Alors Momo, il est un petit peu cruel, comme son surnom le veut, évidemment. Il est un petit peu cruel avec l'exploitant minier parce que c'est pas le seul qui soit en cause. En fait, il y a eu une cinquantaine d'années d'exploitation minière qui était tout à fait prévue et qui s'est passée au niveau volume comme c'était prévu, sauf qu'il y a un organisme d'État, l'équivalent du ministère de l'Environnement, mais uniquement pour l'Utah, qui devait s'assurer que l'exploitant remettait le minerai là où il l'avait pris. Et l'exploitant, lui, il a plutôt...
Et ça n'a pas été fait.
Voilà, il a plutôt tendance à le reposer le plus près possible pour pas se faire chier, on va dire. Et c'est plutôt, disons, le fait que l'organisme d'État n'est pas surveillé que tout le monde aujourd'hui met en cause, quoi. Donc ça barde un petit peu au niveau politique. Il y a le sénateur, il y a plein de politicards. Puis là, en plus, il y a les élections américaines, comme vous savez, qui s'annoncent en fanfare.
Oui.
Et donc le sujet est devenu un petit peu aussi politique à cause ou grâce à ça, quoi.
Alors, comme disait Maurice, durant le morceau de musique, enfin, les Américains, ils peuvent faire beaucoup de dégâts, mais ils peuvent aller très vite aussi pour réparer aussi.
Exactement. Ils ont commencé à pomper depuis le début de l'année, et c'était archi chaud patate cet été, parce que moi j'étais sur un projet qui devait partir en container voiture le 30, enfin en container bateau, pardon, mais c'était une voiture. Qui devait partir le 30 juin, on a su le 29 juin que la Speed Week aurait lieu. Donc c'était un peu chaud, parce qu'en fait ils ont repompé, et ce coup-là, en accord et avec l'aide de l'exploitant minier, ils ont commencé à repomper du sel pour essayer de reformer une couche à peu près aux endroits où il y en avait besoin. Mais ça représente des volumes et des volumes incroyables, quoi. Quand il y a une surface comme il y a là-bas, ne serait-ce que de rajouter un pouce de sel sur...
Sachant que les grandes pistes font 15 km de long sur...
Je ne sais pas combien de large,
ça fait des quelques mètres cubes.
Ouais, il y a une petite zone de freinage, il y en a qui s'amusent à rouler à 700 km/h, bon, Momo et moi, non.
Mais bah, de toute façon, y a, dans un film, on dit, il y a un mec qui dit, je suis pas venu ici pour freiner.
Voilà, exactement.
Si tu freines, t'es un lâche.
T'es un lâche.
Il faut quand même qu'il s'arrête. Alors, il freine d'autant moins bien que, bah, déjà, à 70 km/h, je pense que, enfin, visiblement, ils freinent pas comme ils veulent. Ils sortent, ils ont deux séries de parachutes qu'il faut sortir dans une séquence bien précise pour pas se mettre en cacahuète, quoi. Et puis, les freins sont pas la priorité, effectivement. Ils sont même plutôt préparés sur les motos et sur les voitures pour ne pas lécher les disques ou les tambours suivant le système de freinage. Donc au moment de freiner, on va dire que c'est pas,
je pense, c'est pas le but.
Il est pas collé dans le pare-brise ou dans le guidon.
Oui, c'est pas des freins carbone, tu veux dire, c'est ça.
Momo a raison, il y a au moins 15 bornes de longue course, comme ils appellent ça, de piste.
D'accord. Franck, alors Maurice, lui, il est intoxiqué au sel de Bonneville, mais toi aussi, hein.
Ah, légèrement.
Alors, ça commence en 2008 avec l'histoire, c'était, vous vouliez faire rouler une voiture.
Ça commence en 2008, hein, exactement, ouais. Ça commence même en 2007, en fait, puisque donc j'ai un copain, Gilles, qui, dans une bourse en Angleterre, achète une Reliante. Alors, une Reliante, c'est un truc bizarre, c'est une voiture à trois roues anglaise, donc c'est doublement bizarre, parce que trois roues, c'est bizarre, et anglais aussi. Il y en a une dans Mr Bean, et la voiture, elle est déjà un petit peu transformée, rabaissée, et Gilles dit, faut qu'on aille à Bonneville avec son engin. Et puis, on s'est dit, bon, on va pas, vu les frais que ça représente, un conteneur pour mettre la voiture dedans et tout, on va pas commencer billet en tête comme ça, on va déjà aller voir comment ça se passe sur place. Et puis, de fil en aiguille, on se dit, on va pas y aller les mains dans les poches, le mieux c'est d'engager un truc, un engin pour participer et voir de l'intérieur comment tout ça se déroule. Mais pas emmener un truc trop compliqué. Et nous vient l'idée d'amener un 50 cm3. Donc moi, je pars en vacances en 2017 avec le bouquin des les rules, comme on appelle, bah, que Momo connaît bien aussi, c'est-à-dire le bouquin où il y a tous les règlements techniques.
C'est le règlement, et,
ouais. Voilà.
La Bible.
Une Bible.
Voilà, c'est la Bible, et puis il est édité tous les ans, et puis il y a tous les records en place, toutes catégories voitures et motos, et l'idée, c'était de trouver une catégorie dans laquelle on puisse quand même pas passer pour des burnes, quoi, et revenir éventuellement avec un record pour ensuite pouvoir démarcher des sponsors, etc. Et c'est comme ça qu'on est parti en fait sur un projet un petit peu givré, c'est-à-dire qu'en 2008 on a pris l'avion à Roissy avec deux valises de 23 kilos chacun, dans lesquelles il y avait la mobilette sidecar entièrement démontée dans les valoches.
Alors, on se demande comment ça a pu passer, hein. Enfin, à l'époque, il y avait peut-être pas la sécurité qu'il y a actuellement, mais
bah, sauf que je sais pas. Enfin, Momo peut le dire. Moi, j'ai pas spécialement vu avant ou après les problèmes État islamique et autres. J'ai pas tellement vu de ça s'est pas détendu ou ça s'est pas tendu au niveau douane. Ils ont toujours été très. C'est pas chiant parce qu'ils sont très. Non, mais ils font vraiment leur boulot. Donc c'est clair que quand on débarquait, Gilles il avait les morceaux de cadre dans sa valoche. Donc les gars croyaient que c'était des canons de fusil. Yann, il avait les batteries parce qu'on fonctionnait pour gagner un petit peu. On n'avait plus de volant magnétique, ni d'alternateur, ni quoi que ce soit. On fonctionnait en batterie perdue. Donc il fallait changer de batterie après 2-3 runs, quoi. Et les batteries, c'était des batteries sèches de centrales téléphoniques. Et des batteries comme ça, dans la réglementation avion, faut les trimballer non pas en soute, mais en cabine. Sauf que il y a aucun douanier qui le sait parce qu'ils envoient jamais des batteries comme ça, des batteries de moto, quoi. Et donc Yann, à chaque fois, il se faisait toper. Dès qu'on passait un contrôle, on le faisait passer lui avant parce qu'en général, c'était lui le plus long, quoi. Mais bon, une fois que les gars, ils avaient compris ce qu'on faisait, une fois qu'ils disaient, mais les mecs, vous faites 10 000 bornes pour venir faire une course dont on pensait même qu'elle était pas connue en France. Et donc, bah, on se faisait écraver les phalanges par des gros douaniers balèzes et qui nous disaient good luck, voilà. soyez rapide et soyez safe. Donc ça, c'était effectivement le côté marrant. Mais c'est vrai qu'on en a surpris quelques-uns, ouais, des douaniers. Ouais.
Voilà. Et donc, vous allez arriver à Bonneville et là, vous allez mettre 3 heures pour le remontage.
Ouais.
Et là, les participants, même ceux qui roulent sur des trucs à 900 km/h, là, vont venir vous voir. Et ils vont vous serrer la main, ils vont dire, dis-donc les mecs, chapeau à ce que vous avez fait.
Oui, exact. Ouais. C'est ça qui a été la plus grosse surprise. C'est-à-dire que bah, nous, on s'est pris au jeu, forcément. Donc, au départ, on devait faire ce petit engin pour participer et observer ce qui se passait autour de nous. Puis, un mot en amenant un autre. La moto était vachement sympa. Jean avait, donc un autre copain de l'équipe, avait fait faire des garde-boue enveloppants, mais c'est lui qui avait conçu la forme. C'était un peu... Ça rappelait un peu la forme en goutte d'eau des garde-boue d'Indian carénés. Voilà, mais on était dans notre truc et enfin, on s'est pas rendu compte que notre moto elle était belle. Si, on s'est rendu compte qu'elle était belle, mais on pensait vraiment passer inaperçu totalement là-bas. Et par contre, nous, en prendre plein les mirettes, bah, comme Momo quand il est arrivé la première fois là-bas, etc. Voilà, c'est vrai que on est coincé entre des, parce que les files d'attente pour passer les runs, on est au milieu de tout et rien. On a une Corvette de 800 chevaux au cul, on a des camions et des trucs comme ça à droite à gauche.
Ça,
enfin, voilà.
Ça doit pas être très rassurant là, en 50 centimètres cubes, avoir une Corvette de 800 chevaux derrière.
Ça pousse. C'est pas que c'est pas rassurant, mais il y a un truc marrant, ouais, t'as raison.
Tu vas te faire aspirer par le carbu.
Alors, c'est pas le plus gros problème. Le problème, c'est l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, un 50 cm cube motobécane de 1956, ça fait pas beaucoup de bruit. Surtout quand, dans la file d'attente à côté de toi, il y a un mec qui est en train de chauffer son V8.
Ah oui, ça, je comprends.
Compresseur. Et on a eu vraiment souvent le problème parce qu'en fait, comme peut-être Momo, j'ai raté le début de l'émission ce matin parce que je suis rentré en retard de la messe. Donc. Mon nom, hein. Mais bref, j'ai raté le début, effectivement. Je ne sais pas si Momo vous a détaillé un peu le truc, mais quand on attend pour passer en piste, il y a en fait deux files d'attente. Et le gars fait alternativement partir le mec de gauche pendant que le mec de droite se prépare et inversement. Et donc, bah, quand le mec de droite, c'était nous, qui étions en train de démarrer la mob.
Tu te demandais si elle était vraiment à démarrer?
Comment?
Tu te demandais si vraiment elle était démarrée, en fait.
Mais oui, parce que bah, un petit dotant comme ça, ça fait ring, 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 ça fait un petit bruit, voilà. Mais à côté d'un 7 litres compresseur, on s'entend plus, comme dirait l'autre, quoi. Et donc, ça, c'était un petit peu, bon, on voit la fumée sortir en même temps, ça aide quand même.
Oui, bah, dans un sens, oui.
C'est vrai que plus d'une fois, c'était un peu chaud pour arriver à la faire craquer comme ça, quoi. Mais.
Très bien.
Et donc, oui, comme tu le disais, pour finir ta question, effectivement, on est arrivé avec nos galoches, on a remonté la moto, grosso modo, effectivement, je dis toujours en 3 heures de temps, mais c'est à peu près ce que ça nous a pris. Et puis, on est passé au contrôle technique, bah, les gars étaient un petit peu hallucinés, mais ils nous ont félicité pour la qualité du boulot. La moto était en fait, le cadre était fait en plusieurs morceaux, on avait conçu ça de manière à ce que bah, ça rallonge un petit peu l'empattement de la mobilette. Parce qu'au départ, c'est la mobilette du curé des années 50. Hein. C'est
on voit.
Et à la fin, c'est un truc où on est couché dessus un peu à la Momo.
Ouais.
Quoi, voilà.
D'accord. Ouais.
Du coup, donc, l'empattement plus long, ça permet de rouler droit. Parce que quand on est à des vitesses de 90-100 km/h, hein, faut quand même bien rouler droit. Et puis, tout ça se démontait. Et il y avait des assemblages de tubes, etc., qu'on avait fait faire par un pro. Et effectivement, techniquement, on a eu les félicitations des contrôleurs. Quoi.
Très bien. Ça, c'était pour les premières expériences. Moi, après, il y a eu le proto-air, air comprimé. Après, il y a avec Nomerum, je crois, de 1935. Il y a le record le plus bas en 2009. Alors là, il y a une histoire aussi. Il y a la 4L fourgonnette. Il y a le sidecar électrique. Nico, voilà, il y a des trucs aussi en bonne ville.
À quelle heure est finie l'émission?
Il reste pas beaucoup là. Il faut que tu restes. T'as deux minutes.
Pour la faire courte, en fait, donc en 2009, on part avec la voiture qu'on avait en tête de faire rouler depuis le début, qui était donc cette fameuse Reliante. On s'aperçoit que dedans, même si le gars avait mis un turbo sur le moteur de Reliante, à part se prendre tout dans la tronche très rapidement, on n'allait pas arriver à en faire grand chose. Et on creuse un peu la question et on part sur un moteur de moto. On avait le R1 où on avait le GX en tête, le GSXR. Les R1 sont non seulement assez durs à trouver, mais en plus, ça coûte la peau des fesses. On part sur le GX et on fait comme ça la connaissance de KMP, donc Chris, qui est devenu un pote à nous. Et Chris, bah, c'est le pape du GSXR en France. Il avait déjà vendu pas mal de moteurs de moto à des mecs qui voulaient mettre ça dans des voitures de course. Sauf qu'en général, ça finissait sur une étagère et ça donnait rien. Ouais. Sauf que nous, il a légèrement remarqué qu'on était un peu motivés et du coup, il est carrément venu avec nous.
Ouais, il est venu avec vous, oui.
Et on lui a fait la surprise de l'engager, en fait. Parce que Gilles avait préparé une petite moto, une Niomerone de 1935.
Ouais.
Gilles et moi, on est passés sur cette moto. On a fait chacun dans des catégories différentes un record qui était stratosphérique puisqu'on devait être dans les 35 km/h quand même, mais avec une moto de 1935 à 1200 mètres d'altitude, on perd 30% de puissance, donc c'est quand même un beau record. Et Chris, lui, a eu un petit souci de robinet d'essence.
Alors, l'histoire du manque d'essence, il roulait en fait de biais, hein. Il pensait qu'il n'y avait plus d'essence. Donc, pour pouvoir faire rentrer ce qu'il pensait, le peu d'essence qui restait dans le réservoir, il roulait de biais. Il disait, ben.
Exact.
Et en fait, c'était pas ça du tout.
Il pensait être en panne d'essence. Et du coup, il s'est dit, putain, bon, Chris a fait beaucoup de compétitions par le passé, donc il a des automatismes comme ça. Donc il a penché la moto, enfin, côté bouchon.
Robinet,
côté,
oui.
Pardon, robinet.
Oui.
Donc il a fini, il dit, heureusement que personne ne me voyait, parce que je devais vraiment avoir l'air d'un nain sur mon truc. Surtout qu'il est super baraqué et que la moto est toute petite, donc déjà ça, même quand il roulait normalement, il avait un peu con. Nous aussi d'ailleurs, mais lui encore plus, puisqu'il est baraqué. Il sort de son run comme ça, et en fait, on se rend compte que c'était pas ça du tout, c'était le robinet d'essence qui s'était un peu fermé, parce qu'il y avait un câble de fermeture d'urgence avec ouais. une commande au guidon.
Oui, oui, c'est oublié, oui, pour la sécurité, oui.
On résout le problème pour le return run, sauf que vu le temps de merde qu'il avait fait à l'aller, puisque le moteur crapotait, il avait du mal au niveau carburation, puisque ça revenait pas, bah, la moyenne des deux temps, des deux runs, je veux dire, qui lui a fait un record quand même, bah effectivement, il était à autour de 22 ou 25 km/h.
Oh bah c'est pas mal. Hein.
Ça a été, on a eu cette année les trois records les plus lents de la série. Mais le speaker officiel de la série,
oui.
quand Chris est sorti de voilà. son run, il a dit voilà, ce monsieur est l'exemple type du fait qu'on n'est pas obligé de dépenser des fortunes et de rouler à des vitesses folles à bonne voilà. vie pour se faire plaisir.
Et le tout, ouais, et le tout est de participer.
Exactement.
Voilà, très bien. Mais Franck, on va devoir se quitter parce que je. Sinon, là, on va te rappeler, on fera une émission avec Maurice.
Ouais,
ou peut-être en début d'année. Et on te rappellera parce que. On parlera aussi de la 4L fourgonnette et le sidecar électrique. Alors, il y a une anecdote aussi là-dedans, voir l'histoire, l'historique.
Avec plaisir. Mais là. La prochaine fois.
Et voilà. Et donc, on va se retrouver au téléphone d'ici quelques semaines. Voilà, et on refera l'émission. Merci d'avoir. D'avoir répondu à nos questions et d'être patient aussi hein, surtout.
Pas de soucis.
Et on te rappellera d'ici quelques semaines pour on refera une émission sur donc cette
avec
fameuse bonne ville voilà.
Ouais. Pour... Bisous à tous, bisous à Momo, bisous à tous.
Merci
salut, Franck,
merci, salut.
Salut.
Au revoir. We'll be right back.
Benoît Delmotte, le coordinateur de la Fédération française des moteurs en colère du Nord, du Haut-de-France, nous a rejoint dans les studios et a un message à nous communiquer.
Voilà. Bonjour.
Excuse
à tous.
Parce qu'on est pris par le temps.
Je fais très vite. Alors, on organise avec la FFMC 62 le samedi 29 octobre un hommage aux motards décédés et pour le dire non à la violence routière. Donc c'est un petit parcours qui démarre de Daffy à Lens, le magasin Daffy Lens, à 13h30. Le départ se fera à 14h, mais le rendez-vous est à 13h30. Et on va se rendre sur le lieu de l'accident de la vendeuse de chez Daffy à Vermel, qui avait été tuée en mars 2016, pour lui rendre un hommage. Avec notre slogan « Les motards ne meurent pas, on les tue », hein. On n'a jamais, enfin rarement vu quelqu'un prendre sa moto pour les délibérément se tuer. Et ensuite, on fera un petit périple jusque Gondecourt et entre Gondecourt et Carnin, où il y a eu un accident il y a une dizaine de jours, où un motard a été grièvement blessé, un cycliste tué, encore une fois avec une vitesse excessive de l'automobiliste. Rappeler qu'on est vulnérable et qu'on décide jamais du jour où on va avoir un accident, donc il faut être hyper prudent, hyper équipé, hyper protégé. Voilà, donc
un automobiliste qui a pris la fuite aussi en plus.
Qui a pris la fuite en plus, ouais, bah, bien sûr. Alors c'est aussi, voilà, les délits de fuite sont de plus en plus courants maintenant avec les problèmes d'assurance, d'alcool, de drogue, ça va très vite, les pertes de points, donc maintenant c'est devenu la grande mode, quoi. On n'attend même pas que les gens soient à terre, on se sauve déjà tout de suite, comme ça ils nous risquent rien. Donc voilà, c'est cette action-là qui est faite, alors c'est fait en collaboration avec les monsieur moto du département 59 et 62. Et on invite surtout aussi les cyclotouristes et les cyclistes à venir nous rejoindre, alors si possible entre Gondecourt et Carnin, puisque c'est là qu'il y avait eu l'accident, notamment avec le cycliste qui est malheureusement décédé. Donc s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre en vélo, c'est toujours important qu'on ait un public plus large. Donc si on voilà, s'il y a des gens qui sont prêts à venir, ben, donc samedi après-midi, hein, donc probablement vers 15h, 15h30, et on finira donc à Daffy à Seclin vers 16h.
D'accord, très bien. Merci Benoît d'être venu donner l'information. Le Supercross de Lille, c'est la troisième édition. Désormais solidement implanté dans la métropole lilloise, le plus grand Supercross organisé en dehors du continent américain. Maurice, pour une fois, voilà, se déroulera les samedis 12 et dimanche 13 novembre au stade Pierre Mauroy. La troisième édition des Hauts-de-France promet un nouvel affrontement spectaculaire, encore une fois, entre les USA et la France, Maurice.
Ça va donner.
Le plateau du SX de Lille Métropole sera de loin le plus impressionnant pour une épreuve de ce genre. En Europe, 100% SX, 100% FMX et 200% show. Et chaud quand il est chaud, hein, voilà. La piste avec ses 6 lignes droites parallèles comme aux USA, des obstacles aériens inédits et une terre locale propice au Supercross. La terre locale, elle vient des champs de betteraves aux
alentours.
Voilà. Favorisera les dépassements et donc la bagarre. Le programme identique samedi et dimanche comportera en catégorie 450 la fameuse Superpole, les demi-finales, le repêchage et la grande finale, ainsi que deux manches du championnat de France. Et six tours, 250, le tout entrecoupé de 3 séances de freestyle. Infos et réservations, www.supercrossbercy.com. Tout coupé, hein, collé, hein, supercrossbercy.com. Voilà, on revient, on termine l'émission avec Moto Guzzi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs qui apparemment ont été passionnés par l'histoire Moto Guzzi? L'année prochaine, ce sera encore ouvert l'usine. Maintenant, apparemment, c'est tous les ans. Hein.
Oui. Non, mais je pense que ça ne va pas fermer quand même de suite. Je pense qu'il y a des problèmes chez Guzzi. Je pense qu'ils attirent pas les jeunes. C'est ça le problème. Maintenant, je pense que...
Alors, ça serait quoi? C'est moto de vieux, alors? Non, c'est ça non,
le problème, c'est qu'entre des petits blocs qui, à l'heure actuelle, ne font que 55 chevaux et des gros blocs qui font 250 kilos, ils devraient trouver quelque chose qui soit au moins intermédiaire, chose qu'ils ne font pas.
Là, il y a le petit V9, là, qui...
C'est très gentil, mais ça fait 55 chevaux.
Qui fait... Oui, mais bon, c'est marrant. C'est une gueule assez sympa.
Ah, elle est belle.
Oui, c'est beau, ça. Il y a le Bombers aussi. Maintenant, c'est la mode. Des gros pneus sur la roue avant, à roue arrière, Bombers, c'est nos amis américains qui ont relancé la mode, Maurice.
C'est des gros pneus pour des gros bons hommes. Des gros... à l'échelle du pays.
Oui, c'est à l'échelle du pays. Ouais, mais nous, on n'est pas gros.
Et,
nous,
et comme ils fabriquent à Mandello, ça coûte plus cher que Triumph, qui fait le même genre de modèle, mais fabriqué en Thaïlande. Ça c'est autre chose. Voilà,
très mais bien. Mandello, faut y aller parce que.
Mais il faut aller voir Mandello et puis il faut faire des balades. Hein,
super là-bas c'est ça, t'as des cols partout, c'est les montagnes.
Et ce qui est super marrant, c'est que tous les commerçants vivent en mode Guzzi, que ce soit le fleuriste le coiffeur ou le photographe.
Et Béatrice,
il y a des cylindres, il y a des pistons, il y a des motos complètes, des cadres, il y a tout.
Et Béatrice, en vitrine. On peut rencontrer le mec qui fait du café là. Enfin, il fait pas du café.
Georges Clooney. What else?
Mais il fait de la pub pour le café.
Il y a juste à côté. Hein,
toutes les femmes sont amoureuses. Bon, Maurice, on finit une émission prochainement. Hein,
avec
cette fameuse course là-bas. Vitesse pure.
Avec Franck, je pense qu'on peut faire un marathon.
On va faire une émission
3-4 jours si vous avez le temps. Après, c'est pour les auditeurs, si on les saoule pas avec ça, avec Bonneville. Il y a matière.
Benoît, il y a peut-être moyen de se retrouver aux infos, peut-être ce que tu as dit là sur le site de la FEDE. Vite fait.
Sur le site de la FEDE, sinon, il y a un événement Facebook avec le petit pouce bleu qui est créé qui s'appelle Non à la violence routière, où toutes les infos seront reprises de là.
D'accord, très bien, merci. Voilà, l'émission se termine. Merci d'être venu aujourd'hui passer une heure et demie avec nous dans les studios. Et puis on se retrouvera, ça sans doute, hein, parce que c'est passionnant tout ça. Et toujours, on va se retrouver dès là, dimanche prochain, voilà, avec de la littérature, des bouquins et puis plein d'autres choses. Merci, au revoir à tous. Passez un beau dimanche.
Au revoir.
Bon dimanche.